La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a quitté la Nouvelle-Calédonie vendredi soir. Elle avait débuté cette dernière journée sur le territoire dans les studios de Radio Rythme Bleu. Extrait dès le début de ce journal. Le petit salon des activités touristiques à deux pas d'ici se tient jusqu'à 18h à l'Aquarium des Lagons. Un mini-salon organisé par Sutourisme qui attire de très nombreux visiteurs. Le budget de la Sécurité sociale examiné en commission au Palais du Luxembourg. Les sénateurs qui ont supprimé du texte la suspension jusqu'en janvier 2028 de la réforme des retraites. Donald Trump fait marche arrière en supprimant certains droits de douane qu'il avait imposés il y a quelques mois. Objectif, limiter l'inflation pour les consommateurs américains. Le sport, le rugby, le 15 de France victorieux, mais toujours dans le doute. Les Bleus ont battu difficilement les Fidji ce matin. Score final 34-21. Et puis en Calédonie, plus d'une centaine de participants réunis pour le swimrun de l'Olympique Nouméa Triathlon. Ils se sont affrontés en solo ou en duo sur un parcours allant de la plage du Méridien à la baie des Citrons. Bonjour, très bon dimanche et soyez les bienvenus dans ce journal. Revenons pour débuter sur la visite de 5 jours en Nouvelle-Calédonie que la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a achevée vendredi en fin de journée. Rappelons qu'avant de prendre l'avion pour Paris, la ministre avait rencontré en fin d'après-midi, vendredi, les partenaires politiques favorables à l'accord de Bougival, c'est-à-dire tous, sauf le FLNKS. À l'issue de cette rencontre, la ministre avait publié un communiqué dans lequel elle indiquait que les partenaires étaient favorables à l'accord de Bougival et qu'il s'était accordé sur plusieurs points. Le soutien à l'accord de Bougival, la tenue d'une consultation citoyenne anticipée, l'engagement à poursuivre des discussions relatives à la mise en œuvre de l'accord, notamment à apporter des éclaircissements nécessaires, et le lancement d'un plan de relance à la hauteur des défis de la Nouvelle-Calédonie, écrivait la ministre. La ministre des Outre-mer, qui avait débuté donc sa dernière journée en Calédonie, dans les studios de Radio Rythme Bleu, interrogée par Elisabeth Noir à 7h30, elle avait, avant même ses dernières rencontres politiques, apporté un certain nombre de réponses en affirmant vouloir tenir un cap d'autorité et de fermeté. Naïma Moutchou, qui avait notamment tenu des propos très clairs à l'égard du FLNKS, Michael Juneski.
La ministre fait le constat que le FLNKS ne veut pas de Bougival, mais que le blocage de l'un ne doit pas bloquer l'ensemble. Plus globalement, elle est revenue sur la mission que lui ont confiée le président de la République et le Premier ministre. Il s'agissait, dit-elle, de retisser le lien du dialogue et de tenir un cap d'autorité et de fermeté. Elle affirme aussi qu'elle veut lier le plan institutionnel et le plan économique et social. Et concernant sa méthode, elle reconnaît qu'elle a surtout écouté.
Vous avez raison, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de l'écoute. Je suis venue modestement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie que je connais. Je suis venue en 2018, ça fait très longtemps que je travaillais aussi sur ces sujets. J'ai pas découvert le territoire en sortant de l'avion la semaine dernière, donc je savais que ce serait difficile et la semaine n'a pas été simple. Mais j'ai entendu tout le monde. Toutes les forces politiques sont venues à la table, principalement dans le cadre de bilatéral. Donc on s'est vus, on a échangé les yeux dans les yeux. Moi, j'ai posé un cadre de méthode. J'ai dit que je n'avais pas de temps à perdre et que j'étais là pour écouter. Mais alors, dans ce cas-là, il faut un dialogue vrai et un dialogue franc. Qu'on se dise les choses. Est-ce que l'accord de Bougival tient encore? S'il ne tient pas, pourquoi? J'ai besoin d'explications, j'ai besoin de comprendre et de savoir ce qui bloque pour avancer. Et on a fait ce travail-là, y compris avec le FLNKS.
Lors de cette visite, la ministre a tenu des réunions bilatérales, mais elle a aussi reçu ensemble tous les groupes politiques, à l'exception du FLNKS. Pour elle, il y a une forme d'impasse au sein du FLNKS, et c'est une impasse qu'elle ne peut accepter.
Ce qui ressort des premiers échanges que nous avons eus, c'est que le FLNKS veut rester en dehors de l'accord de Bougival. Le mot même de Bougival crispe la délégation que j'ai reçue. Clairement, c'est la trajectoire de l'indépendance. Et donc, il n'a pas la place au compromis dans ces conditions. C'est d'autant plus difficile qu'à ce stade, ceux que j'ai rencontrés n'ont pas de mandat de négociation. Donc, il y a une forme d'impasse au sein du FLNKS. Mais c'est une impasse que je ne peux pas accepter en ce qui me concerne. Parce que la Calédonie ne peut pas rester immobile. Il y a des enjeux majeurs. Ce qui va se passer en 2026, c'est un tournant pour les Calédoniens, notamment sur le plan économique et social. Donc on ne peut pas rester les bras croisés, c'est le message que j'ai fait passer. Le statu quo n'est pas possible et les autres forces politiques le comprennent. 5 sur 6 aujourd'hui tiennent à Bougival.
Et quand on rappelle à Naïma Moutchou qu'elle l'avait déclaré qu'elle ne voulait pas faire sans le FLNKS, elle tient à préciser les choses.
La phrase complète, et c'est important, je ne veux pas faire sans le FLNKS, pourvu que le FLNKS ne fasse pas sans les autres. C'est ça la méthode du consensus, et en particulier en Calédonie. Donc, j'entends moi que le FLNKS ne veulent pas de Bougival, mais je n'ai pas de contre-proposition aujourd'hui, je n'en ai pas. Sauf une trajectoire d'indépendance, mais qui donc ne s'inscrit pas dans un compromis. Qu'est-ce qui s'est passé à Bougival et pourquoi c'est important Bougival? Parce que vous avez des forces politiques qui ne se parlaient plus, qui ont décidé à un moment donné de se réunir, et de mettre les choses sur la table, et de faire un pas de côté. On n'avait pas vu ça depuis longtemps quand même. Et chacun a accepté des négociations, des concessions ambitions, alors que on pourrait se dire les ambitions, elles sont contradictoires. Vous avez des aspirations indépendantistes d'un côté et puis des gens attachés à la République de l'autre. Mais oui, mais elles ont accepté de s'ouvrir au dialogue et d'accepter que celui qui était en face ne sorte pas humilié de la séquence. C'est comme ça qu'est né Bougival. Et c'est cet esprit que je veux préserver et continuer à porter. Donc je ne peux pas accepter qu'une partie me dise « y a rien, j'ai pas de proposition, c'est l'indépendance ou rien ». Ça n'est pas entendable vis-à-vis de la méthode qui est celle du consensus ici et vis-à-vis des pas qui ont été faits par les autres.
Face à l'attitude du FLNKS et à son absence de proposition, la ministre indique que la porte reste ouverte, mais elle affirme aussi que l'on ne peut pas perdre de temps.
La porte, elle est ouverte. C'est ce que j'ai dit au FLNKS. La porte est ouverte. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans 2 mois, la porte est ouverte. Ils peuvent prendre le temps de la réflexion, s'organiser. J'imagine qu'il y a des échanges en interne. À un moment donné, s'ils veulent revenir dans la discussion, la porte est ouverte. En attendant, il faut avancer. Encore une fois, parce qu'on ne peut pas se permettre de rester dans un statu quo. Je rappelle les défis majeurs que les Calédoniens devront affronter dans une situation économique dégradée. On ne peut pas perdre de temps. Et donc, le blocage de l'un ne doit pas bloquer l'ensemble.
Le blocage de l'un ne doit pas bloquer l'ensemble, affirme donc la ministre des Outre-mer. Elle a également été interrogée sur la situation catastrophique de l'économie calédonienne et sur les réponses qu'elle peut apporter aux acteurs économiques et sociaux. Pour elle, il y a 2 choses.
Il y a les urgences immédiates pour la Calédonie. Il y a des choses qui vont se dérouler dans le cadre du projet de loi de finances, donc assez vite. D'ailleurs, la semaine prochaine, je suis à Paris. C'est pour ça que je pars là. Mardi, je suis à Paris pour l'examen des crédits budgétaires Outre-mer, notamment Nouvelle-Calédonie, mais surtout le plan de relance à venir. C'est un plan de relance massif. Hein. Le Premier ministre avait parlé de sursaut économique et social, de choc de confiance pour le territoire. C'est pas rien.
Quelles aides peuvent être déjà annoncées ou sont prévisibles ?
C'est un plan qui continue de se construire, en fait. Hein. Parce que c'est pas simple. C'est un plan qu'on veut voir se réaliser sur plusieurs années. Donc il y a tous les sujets à l'intérieur. Il y a les projets structurants qu'on pourra porter en termes d'infrastructures. Il y a la question fiscale. Il y a tout le sujet du nickel, de la stratégie qui doit être mise en œuvre. Puis après, il y a les plus petits projets, site par site, territoire par territoire. Les provinces ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes problématiques. Donc c'est un travail long cours. Mais c'est important. C'est pas quelque chose d'évanescent.
C'est la raison pour laquelle Naïma Moutchou a souhaité la présence dans sa délégation de Claire Durieux, la directrice de la mission interministérielle. Pour la ministre, le volet institutionnel et le volet économique et social sont les 2 jambes qui vont permettre au territoire de se redresser. Elle affirme que l'État n'abandonnera pas la Nouvelle-Calédonie et que les élus seront aussi au rendez-vous avec des réformes qui doivent être faites, mais elle indique ne pas faire de chantage aux élus.
C'est pas vous faites des réformes et on verra si on vous aide. D'abord, le temps de faire les réformes, pardon, hein, mais tout ça se sera écroulé. Donc non, on n'a pas le temps. Non, bien sûr, on viendra en appui la Nouvelle-Calédonie, puis en parallèle, les élus engageront les réformes parce que la Calédonie, c'est pas un territoire qui veut faire la poche de l'État. C'est pas un territoire qui vient, vous voyez, nous secouer la manche en nous disant on veut de l'argent, pas du tout. La Calédonie veut pouvoir vivre de manière pérenne sans venir toquer à la porte à Paris. Ça, je le sais, tout le monde me l'a dit et je l'ai vu et je le vois depuis des années. Donc je sais que le territoire calédonien veut s'en sortir. Je sais que les élus aussi. Nous, on est là pour accompagner, pour donner des expertises. Si besoin. En fait, c'est un tout. Et ce que je veux dire, c'est que l'État sera présent.
Concernant la filière nickel, la ministre déclare qu'il y a une stratégie à redéfinir et elle souhaite un grand plan pour le nickel, en affirmant que les lignes sont en train de bouger. Elle rappelle à ce sujet sa rencontre avec Paul Niautin. C'est, pour elle, un signe qu'il y a une petite mécanique qui est en train de s'enclencher. La ministre des Outre-mer confirme par ailleurs qu'il n'y aura pas de coup de rabot dans la défiscalisation et elle estime qu'avec une autre méthode, on peut arriver à faire des miracles. Interrogée enfin sur l'ordre public, elle déclare que l'on doit la sécurité aux Calédoniens.
Ma mission aussi, c'est de tenir ce cap. Moi, je suis attachée à l'autorité de l'État. On ne fait rien dans le bazar, on ne fait rien dans le désordre. Il y a des règles. Les règles, elles doivent être respectées. On peut manifester, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. On ne franchit pas la ligne rouge. 2 gendarmes ont été tués. Ça, c'est encore dans notre chair. Donc, la fermeté, c'est non négociable et ce sera tolérance zéro.
Une interview de Naïma Moutchou à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet www.rrb.nc.
À retrouver également en podcast sur notre site internet Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Vendredi midi, Elisabeth Noir recevait Charles Washetin, l'un des porte-parole du Palika. Le Palika qui a annoncé, vous le savez, qu'il avait décidé de quitter le FLNKS. Transparence qui sera rediffusée ce soir, ce serait après notre édition de 17h45. Rappelons que ce week-end, c'est l'UPM qui réunit son congrès. C'est à la tribune de Goyeta, Poneriwin. L'UPM qui pourrait annoncer à son tour sa sortie du FLNKS. Et puis un autre rendez-vous à vous donner sur l'antenne de Radio Rythme Bleu avec cette nouvelle émission pour enrichir notre grille. Chaque dimanche à 19h, RRB vous propose une nouvelle émission grâce à Europe 1, notre radio partenaire. Il s'agit d'un entretien de près d'une heure avec Philippe Devilliers, interrogé par Elliot Deval, qui permet de passer en revue les actualités marquantes de la semaine. Face à Philippe Devilliers, c'est désormais écouté sur Radio Rythme Bleu tous les dimanches soirs, juste après le flash de 19h.
RRB, il est midi 10.
Au chapitre des faits divers, cette bagarre générale ce matin sur la plage du Quendu Beach à Nouville. Près d'une centaine de personnes auraient été impliquées dans cette rixe qui s'est déroulée sur fond d'alcool. Les forces de l'ordre mobilisées en nombre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Près de 80 policiers et gendarmes ont dû intervenir pour ramener le calme. 9 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Le tourisme en province sud a l'honneur à l'aquarium des Lagons. Depuis 9h, les visiteurs sont nombreux à circuler entre les divers stands proposés par les prestataires touristiques dans le cadre du petit salon des activités touristiques à deux pas d'ici. Les Calédoniens peuvent réserver pour des activités nautiques, aériennes ou encore pour des randonnées et des expériences culturelles.
Je pense que c'est bien, ça leur propose des activités et aussi ils peuvent voir des poissons et tout type d'animaux marins pour des personnes qui n'ont pas la chance d'y aller. Moi j'aime bien le stand de mon père qui est Nouméa Skydive. C'est une association qui propose les gens à sauter en parachute à soit 3000 mètres, soit 4000 mètres. Même les enfants peuvent sauter.
Ça a l'air fantastique de voir toutes les associations ou les offres rassemblées au même endroit et au milieu de ces animaux. Et enfin, c'est merveilleux.
Il y en a vraiment pour les loisirs et le site est vraiment très approprié au niveau de l'aquarium. C'est une belle découverte et une belle initiative et on va faire nos affaires.
Il y a quelque chose qui vous intéresse parmi toutes ces activités?
Plus les sorties familiales au niveau des parcs des différents de la province. Donc on va se renseigner à ce niveau-là.
Un peu tout ce qui est touristique, randonnée, pour découvrir un peu des petits coins cachés.
C'est très bien, c'est très intéressant. Ça permet de découvrir plein de choses et de faire aussi un petit tour de l'aquarium. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, donc c'est toujours sympa. Il y a beaucoup de découvertes du lagon par soit bateau ou avion, ce genre de choses. Et je pense que ça peut être intéressant pour découvrir un peu plus le lagon. Moi, j'ai vu pas mal d'activités comme soit en parachute, ce genre de choses, ou les balades en hydravion qui pourraient être sympas quand même pour découvrir du pays. Ça pourrait être cool.
Et depuis l'ouverture des portes, près de 1000 personnes ont déambulé dans les murs de l'aquarium des Lagons. Jenny Carlo est la directrice générale de Sudourisme.
Ça se passe super bien. Le public était au rendez-vous avant même l'ouverture à 9h. Donc on a beaucoup de monde depuis le début de la matinée. Et l'ambiance est très agréable, très sympa. Je pense que tout le monde profite. L'objectif pour Sudourisme, c'était de proposer un événement qui permette aux prestataires touristiques d'avoir de la visibilité, de rencontrer le public calédonien, les nouveaux arrivants, les touristes, pour pouvoir promouvoir la variété et l'étendue de l'offre touristique en province sud et de permettre à chacun peut-être d'avoir des idées et de préparer la saison estivale. De faire en sorte que les Calédoniens découvrent ou redécouvrent leur territoire, de voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire. On a appelé le salon du tourisme à deux pas d'ici parce qu'on veut justement montrer qu'à deux pas de chez nous, on a une étendue incroyable de choses à faire. On a un patrimoine naturel exceptionnel, culturel exceptionnel. Et donc, c'est de le valoriser et de faire en sorte que finalement, on se le réapproprie aussi et qu'on ait envie de le redécouvrir, en tout cas d'en profiter.
Et ce salon se poursuit jusqu'à 18h, c'est à l'aquarium des Lagons et l'entrée au salon est gratuite. La commune de La Foy a célébré hier les 30 ans de son jumelage avec la ville japonaise de Tsurioka. Les visiteurs ont pu découvrir au centre socioculturel de la commune, notamment une exposition dédiée aux différents objets japonais qui ont pu être ramenés par les différentes délégations lafoyennes qui se sont rendues au Japon. Une soirée d'anniversaire qui s'est déroulée en présence de la consule générale du Japon. Écoutez Florence Roland, le maire de La Foy.
On a été réunis une centaine de personnes, alors bien évidemment des anciens qui ont participé à mettre en place ce jumelage, puisque je vous rappelle que à l'époque, c'est une case qui est montée sur la commune de Tsurioka, et donc il y a un échange de procédés entre les Lafoyens et les habitants de Tsurioka sur la technique de montage de la case. Case qui a été rénovée le mois dernier, où notre président, Monsieur Lombardet, a pu partir et puis procéder à la rénovation de cette case qui s'était plus ou moins dégradée. C'est une satisfaction. On a pu échanger également avec la consule du Japon qui était là. Et puis, On peut d'ores et déjà affirmer que notre jumelage, notre partenariat avec Suruoka, avec le Japon, sera renforcé. Je pense qu'on s'attellera un peu à peut-être faire des échanges, notamment au niveau culinaire, puisque c'est un art qu'ils maîtrisent à la perfection. Et nous verrons s'il y a possibilité de collaborer autrement sur d'autres thématiques qui nous rassemblent.
Florence Roland, le maire de La Foy, joint au téléphone par Kalinda Boicou. Il est 12h16, on va marquer une première pause dans ce journal. À suivre l'actualité en métropole et dans le monde.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Et l'actualité en métropole où l'on reparle de ce clip de rap dont le tournage a dégénéré. C'était il y a tout juste une semaine à Rieux-la-Pape, près de Lyon. Un tournage illégal avec à la clé un tir de mortier d'artifice dirigé contre une équipe de police. 4 personnes avaient été interpellées, 4 personnes qui ont été relâchées sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. Seul le rappeur à l'origine du clip a été placé sous le statut de témoin assisté, de quoi susciter l'incompréhension des quelques 40 personnes qui ont perdu leur logement, logement totalement détruit par les flammes. Noémie Loisel pour Europe 1.
Dans la pièce principale, une grande table et un baby-foot où les enfants se distraient. Ici, 4 familles, soit 21 personnes, vivent depuis une semaine. Chaque famille a sa chambre, mais l'espace reste exigu, témoigne Aya, venue rendre visite à ses parents. Leur appartement, situé au 2e étage, a été entièrement détruit.
On est côte à côte, il n'y a pas d'intimité. C'est très difficile, surtout pour mes parents. Ils sont inquiets, surtout. Ils sont fatigués. Ils veulent chez eux, ils veulent se reposer, ils veulent être à l'aise. Retrouver leur vie, quoi. Parce que là, on a tout perdu.
Aya espère aussi que l'enquête progressera rapidement pour comprendre comment l'incendie a pu se propager jusqu'au 5e étage.
Ils nous ont dit qu'ils avaient des caméras de ville que montraient tout. J'aimerais bien les voir. Malheureusement, on n'a pas le droit. On voudrait refaire notre vie. Tant que l'enquête, elle n'est pas finie, on n'a rien, on n'a pas de preuves, on n'a pas un coupable.
La famille d'Aya doit visiter un appartement dans les prochains jours. Quant aux autres familles, la mairie assure qu'elles recevront toutes une proposition de relogement d'ici la semaine prochaine. Rieux-la-Pape, Noémie Loisel, Europe 1.
Dans l'actualité également, le Sénat qui a examiné les mesures votées à l'Assemblée nationale sur le budget de la Sécurité sociale. La suspension jusqu'en janvier 2028 de la réforme des retraites a notamment été, sans surprise, supprimé en commission par les sénateurs. Décision vivement critiquée par la gauche. Écoutez l'économiste Charles Denery.
Le Sénat montre ses envies ou ses convictions, puisque autant à l'Assemblée nationale, maintenant, c'est un peu la foire et le centre essaye de s'entendre avec une partie de la gauche pour... donc suspendre cette réforme, mais au Sénat, ça fait très longtemps qu'ils prônent des réformes des retraites, et donc ils estiment que eux ne sont pas liés par cette espèce d'accord plus ou moins tacite entre le gouvernement et le PS. Et après, on verra bien ce que ça donnera en commission mixte paritaire. Et est-ce que le gouvernement donnera le dernier mot à l'Assemblée? Est-ce que cette réforme sera votée à temps dans le PLFSS ou est-ce que ça va être reporté après le 31 décembre parce qu'il n'y aura pas de budget voté à temps? Ça, c'est plein de questions différentes. Mais pour l'instant, le Sénat montre au vote ce qu'il a envie de voter. Et puis après, ce sera la commission paritaire et éventuellement le dernier mot à l'Assemblée nationale.
L'économiste Charles Denery, invité ce matin d'Europe 1 Week-end. Au chapitre économie toujours, le Premier ministre Sébastien Lecornu veut déposer un projet de loi pour la mise en place d'une allocation sociale unique. Objectif, regrouper les différentes aides sociales en une seule et même allocation afin d'offrir plus de lisibilité et surtout faire quelques économies. Alexandre Chevaux pour Europe 1.
Fusionner le RSA, les allocations familiales ou encore les aides au logement, c'est l'objet du projet de loi que déposera le Premier ministre au mois de décembre. Sébastien Lecornu compte bien réussir là où Michel Barnier et François Bayrou avaient échoué, le tout grâce à une majorité qu'il pense pouvoir trouver à l'Assemblée.
Cette allocation sociale unique, c'est le seul moment dans lequel je pense aussi qu'on est capable de réconcilier beaucoup de gens qui ont une sensibilité politique différente, parce que tout simplement c'est du bon sens et c'est ce qui repart du terrain.
Il est temps d'enfin créer le site social.gouv.fr, ajoute Sébastien Lecornu, plateforme qui permettrait selon lui un meilleur accompagnement des bénéficiaires et surtout des économies de gestion. LR l'a longtemps réclamé et propose de plafonner cette allocation sociale unique à 70% du SMIC, manière de valoriser le travail sur l'assistanat. Sébastien Lecornu n'est pour l'instant pas allé jusque-là, mais le texte sera débattu par les parlementaires si le gouvernement n'est pas renversé d'ici là.
Alexandre Chevaux du service économie d'Europe 1. Dans l'actualité de ce dimanche midi également, la colère des vignerons en région Occitanie. À l'appel de plusieurs syndicats, plusieurs milliers de vignerons se sont rassemblés cette nuit pour nous dans les rues de Béziers. Ils ont exprimé leur ras-le-bol face aux difficultés rencontrées dans leur secteur.
On vient surveiller sur nos exploitations, ce qu'on utilise, les doses, les factures. On est fliqué, clairement, on nous emmerde. Nous, on s'est plié à toutes ces exigences. Sur l'espace de 2 ans, on frôle pratiquement 30% d'augmentation sur le gasoil, les engrais, l'électricité. Donc sur 2 ans, on a une augmentation qu'on n'arrive pas à répercuter sur le prix de vente, puisque les prix de vente de grande distribution sont toujours les mêmes depuis 15 ans.
Ma cuvée la plus basique, ici au caveau, je la vends 11 euros. Et aux professionnels, type caviste, restaurant, je la vends à 5,50 euros. Et effectivement, en grande surface, ils achètent en grosse quantité, donc ils ont encore moins cher.
Des propos recueillis à Béziers par nos confrères d'Europe 1. À l'international, Donald Trump fait machine arrière en supprimant certains droits de douane qu'il avait lui-même imposés il y a quelques mois. Des exemptions qui concernent désormais le café, le thé, les produits exotiques ou encore la viande de bœuf. Objectif, limiter l'inflation pour les consommateurs américains. Et puis à noter, toujours au chapitre international, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera reçu en début de semaine à l'Elysée. Au menu des discussions avec Emmanuel Macron, les enjeux de coopération bilatérale avec la France dans les domaines de l'énergie, de l'économie ou encore de la défense. Volodymyr Zelensky qui a renouvelé il y a quelques heures son appel aux partenaires de l'Ukraine pour obtenir davantage de systèmes de défense aérien. Et ce, au lendemain de nouvelles frappes russes qui ont fait 7 morts dans la capitale, Kiev. Il est midi et 22 minutes, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, nous parlons sport.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal de Le Sport avec Lionel Sabot.
Et Mickaël Juneski est avec nous également du rugby. Et le 15 de France s'impose contre les Fidjiens pour le deuxième test match de la tournée de novembre. Victoire qui a été bien difficile à se dessiner, Mickaël.
Hein. Oui, un succès, mais à l'issue d'un match brouillon des Bleus, il faut bien le dire, hein, contre des Fidjiens totalement décomplexés et ambitieux. Si le début de la rencontre a vu les tricolores imposer tout de suite leur rythme, l'équipe de France a ensuite souffert pour venir à bout de son adversaire. 4 essais français signés des porteurs, Marchand, Olivon, et encore des porteurs à 10 minutes de la fin de la rencontre, alors que la formation de Fidji a réussi à aplatir le ballon à 3 reprises derrière la ligne d'en but des tricolores. La réaction de Grégory Aldrit, capitaine du 15 de France.
C'est toujours difficile de rebondir après une défaite. On a passé une semaine compliquée. Donc voilà, on est très content de gagner ce soir. Bien sûr, on ne va pas se mentir, il y a encore des points à améliorer, on en est conscient. Donc voilà, on va savourer quand même. Mais on va retourner au travail pour essayer de rendre une copie parfaite la semaine prochaine.
Une performance qui permet de faire oublier les 4 dernières défaites consécutives, notamment celle face aux Springboks le week-end dernier, 32-17. 2017. Parmi les autres résultats du jour, l'Angleterre qui a battu la Nouvelle-Zélande sur le score de 33-19. Les Springboks ont logiquement surclassé l'Italie 32-14. A signalé encore la victoire des États-Unis contre la Roumanie 26-18. Et ce succès sur le fil du Pays de Galles contre le Japon 24-23. L'Irlande s'est aussi imposée face à l'Australie 46-19. La nuit prochaine, l'Écosse retrouvera les Pumas argentins. Le 15 de France jouera encore le week-end prochain. Cette fois, ce sera face aux Wallabies australiens.
Et il faudra rendre une copie parfaite. L'actualité du tennis, ce sera bien un duel, non pas au soleil, mais au sommet pour le dernier tournoi de la saison sur le circuit ATP, le Masters de Turin.
Et l'Espagnol Carlos Alcaraz qui a fait le nécessaire pour terminer l'année comme patron du tennis mondial. La place de numéro 1 et une finale en vue après son succès sur le Canadien Félix Auger-Aliassime dans le dernier carré. Il retrouvera donc son plus grand rival du moment, Yannick Sinner, l'Italien, désormais numéro 2 à l'ATP, qui a dominé pour sa part l'Australien Alex de Minaur 7-5, 6-2.
Les sports mécaniques, Mickaël, et le Grand Prix de la communauté de Valence de MotoGP, c'est en Espagne. Alex Marquez qui a remporté la Sprint Race.
Il a devancé son compatriote espagnol Pedro Acosta et l'Italien Fabio Di Gianantonio. Fabio Quartararo a terminé 7e, Joan Zarco 10e. Les Français qui s'élanceront par ailleurs respectivement des 6e et 11e positions sur la grille de départ ce soir lors de la course principale. Le dernier rendez-vous de la saison de MotoGP pour lequel c'est l'Italien Marco Bezzecchi qui partira en pole position. Ce sera à suivre à partir de minuit, donc la nuit prochaine pour nous.
Eh ben on va encore se coucher tard. Le sport est sur le territoire à présent et l'Olympique de Nouméa Triathlon qui organisait ce dimanche un swim and run le long des bêtes de Nouméa.
1,6 km de natation, 6,5 km de course à pied. Au total donc, entre le Méridien et la baie des Citrons, la grande difficulté consistait à alterner les phases de nage et de course à pied dans le sable pour ajouter encore de la difficulté à l'effort. Le premier duo à s'être imposé chez les messieurs, c'est celui composé par Anthony Carrasco et Timothée Hérout. Team Swim et Carascool, c'est le nom de l'équipe, hein, membres tous les deux de l'Olympique Nouméa. Vainqueur donc sur un temps de 59 minutes et 1 seconde chez les féminines, c'est l'équipe Tic et Tac, composée de Nathalie Viratel de l'Olympique Nouméa et Charlotte Robin de la Sport Team, qui se sont donc imposées. On écoute leur réaction.
Ça s'est bien passé, c'est une belle épreuve effectivement, en plus aujourd'hui les conditions sont au rendez-vous, il y a du soleil, il n'y a pas de vent, donc c'était l'idéal.
Charlotte, elle est vite en natation. Et dans le sable, ouais, c'était dur de courir, mais on a quand même couru vite, donc on a amélioré notre temps par rapport à la dernière fois. Ça va, c'est bien, on est contente.
Nathalie Viratel également sous la casquette du club organisateur. Pas trop compliqué d'abord d'être au four et au moulin.
Ouais, ça c'est un peu dur aussi le matin, à 5h du matin, à venir installer les bouées, le matériel, les oriflammes et tout ranger et tout.
Dans tous les cas, une belle satisfaction.
Oui, oui, en plus il y a beaucoup de participants par rapport à la dernière fois, donc ouais, on est contente, beaucoup de binômes féminins. On voit que le swimrun, ça marche bien chez les filles, donc ça c'est bien aussi.
Et plus d'une centaine de participants étaient en effet présents. Thibaut de Maneuf l'a emporté en individuel, Christelle Lacroix chez les féminines, en individuel toujours. Et l'équipe blondie et brunette avec Emmanuel Favard et Mathieu Zalmacha s'est imposée au classement mixte.
Dans le lagon, le rendez-vous du week-end, c'est la Blue Scope Race.
Ouais, le rendez-vous multisport de glisse nautique à la voile ou à la rame, windsurf, kitesurf, kayak, va, catamaran, voilier et d'autres encore. Raid longue distance sur lesquelles les premiers à s'être affranchis des 19 kilomètres ce matin dans des conditions musclées, ce sont les catamarans et avec l'équipage père et fils Jérôme et Antoine Lajoigny qui s'est imposé. La réaction d'Antoine Lajoigny.
C'était pas mal, le vent il soufflait fort, il était pas très bien orienté pour nous au début et puis après on a réussi, il s'est un peu tourné, on a réussi à envoyer un spi et finir ce spi là.
Belle sensation.
Sensation elle c'était pas mal ouais.
Toutes les catégories qui s'élançaient donc chacune à leur tour tout au long de la matinée. Hier, des initiations étaient également proposées sur la plage de Lanzvata.
Allez, avant de nous séparer, ces quelques infos au sport pour vous rappeler que les finales de la Coupe de Calédonie de cricket se jouent ce dimanche au stade Endu. Chez les messieurs, Berouma s'est opposé à l'ASK et chez les dames, la JSO rencontre Wade Rumel. Et puis hors du territoire du futsal et l'ASPTT, vainqueur de la Super League 2024 qui participe à la O-League. C'est à Suva, aux îles Fidji. Les joueurs de la SPTT qui affronteront tout à l'heure à 15h les derniers finalistes de la Ligue des Champions d'Océanie, les Salomonais du Matak FC. Rendez-vous donc à 15h. Il est midi et 30 minutes. Ah oui, c'est un métier. Hein. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve à 13h pour d'autres informations. Bel après-midi sur RRB.